Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Astrid Atamian. Bonsoir.
Bonsoir Caroline Roux, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être là.
Eh bien, on est ravis que vous soyez là parce que vous êtes historienne, vous êtes spécialiste du mouvement communiste arménien en France. Vous avez copublié Missak et Méliné Manouchian. C'est un magnifique livre, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance française aux éditions textuelles, dans lequel vous reconstituez l'histoire de ce héros de la résistance française qui va donc faire son entrée au Panthéon avec sa femme mercredi. Déjà, il faut retracer l'histoire de Missak Manouchian. Il arrive en France en 1925, rescapé du génocide, qui vient en France. Pourquoi ?
Il arrive en septembre 24, très exactement. Donc, en effet, c'est un survivant du génocide des Arméniens. Il avait été recueilli dans un orphelinat au Liban, donc zone d'influence française. Et le besoin de refuge des Arméniens va rencontrer le besoin de main-d'œuvre de la France qui se reconstruit après la Première Guerre mondiale. Donc il y a environ 60 000 rescapés du génocide, 60 000 réfugiés arméniens qui arrivent en France à cette époque-là.
Il est un admirateur de la France des Lumières.
Absolument. Alors il faut aussi rappeler que de façon générale, les élites arméniennes, elles admiraient la France, la patrie des droits de l'homme, la France représentait un phare pour tous ces peuples qui rêvaient d'émancipation et de réformes. C'était le cas des Arméniens de l'Empire ottoman qui rêvaient de réformes et de démocratie. Et Missak, lui, il va apprendre le français au Liban. Mmh. Il va découvrir la culture française et la littérature française au Liban. Donc, il parle déjà français quand il arrive.
Et il va devenir un grand résistant. On va en parler dans un instant. Oui. On va faire l'histoire du résistant. Mais juste pendant vos recherches, vous avez découvert que non seulement il est arrivé en France parce qu'il admirait la France, mais qu'il voulait absolument être français, qu'il a fait deux demandes de nationalisation française et il ne les a pas obtenues.
Oui, c'était la belle surprise de nos recherches que nous avions menées avec Denis Péchanski et Claire Moradian en faisant ce livre. On a découvert dans les archives de la préfecture de police et ensuite on a été aussi fouillés aux archives nationales. Manouchian a voulu devenir français. En 1933, il fait une première demande et justement, il la motive en disant qu'il veut faire son service militaire. Donc, il a déjà envie de servir la France. Et ça, on savait qu'il était très francophile, mais on a découvert...
Et il va la servir la France, et pas qu'un peu, puisqu'il va devenir un grand résistant. Il se rapproche d'abord des cercles de gauche dès le début des années 30. Il rejoint le Parti communiste français. C'est d'abord son premier engagement. C'est au moment de son engagement au Parti communiste.
Alors, il se rapproche en effet des cercles de gauche. C'est un intellectuel, c'est un ouvrier, mais c'est aussi un intellectuel. Il fréquente déjà l'intelligentsia progressiste arménienne. Il va intégrer le groupe de langue arménienne du Parti communiste français, qui avait justement mis en place cette commission de la main-d'œuvre immigrée pour encadrer les travailleurs immigrés. Et il s'engage aussi dans une association qui s'appelle le Comité d'aide à l'Arménie. Mmh. Parce qu'en fait, Missak, lui, il était francophile, aussi communiste, mais il se souciait aussi du devenir de sa patrie d'origine.
Et l'entrée dans la résistance. Alors déjà, à ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà son épouse à ses côtés ? Elle est déjà là ?
Alors, son épouse, alors il rencontre Méliné.
Qui fera son entrée au Panthéon, on le rappelle. Hein,
elle l'accompagne aussi au Panthéon, en effet. Elle a aussi résisté. Donc, lui, enfin, tous les deux se rencontrent en décembre 1934 à l'occasion de l'anniversaire du 14e anniversaire de l'Arménie soviétique. Et ils vont militer ensemble dans le Paris du Front populaire.
Et ils vont résister ensemble.
Et ils vont résister ensuite ensemble.
À partir de 1941.
Alors, Missak, lui, comme communiste, il est tout de suite emmené à la prison de la santé au lendemain de la déclaration de la guerre, parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Et il va justement demander à rejoindre sa compagnie et il va obtenir gain de cause. Et du coup, là, on le voit en uniforme français, en soldat. Et quand il est soldat en janvier 1940, il fait une deuxième demande de nationalité française. Et Et ensuite, il va rejoindre la résistance, mais à partir de, alors, à partir de 42, et le combat armé à partir de 43.
Alors justement, on va voir un extrait d'un documentaire de Hugues Nancy et Denis Péchanski qui sera diffusé demain à 21h10 sur France 2. Il est raconté dans cet extrait du documentaire que l'on va voir un attentat perpétré par Missak Manouchian. C'était le 17 mars 1943. Il a pris les armes, c'est à Levallois-Perret contre un groupe de nazis.
À 7h45, une quarantaine de soldats allemands surgissent dans la rue Rivet, se dirigeant au pas vers la Seine. C'est alors que Missak Manouchian envoie une grenade au milieu du détachement. Plusieurs soldats sont grièvement blessés.
À l'époque, on parle du groupe Manouchian.
À l'époque, non.
Non ?
On parlera du groupe Manouchian après la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Mais
à cette époque-là,
en fait, ils étaient mobilisés au sein des francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée. Donc la main-d'œuvre immigrée que le Parti communiste français avait mis en place dès le début des années 20, en 1924. Donc c'est cette main-d'œuvre immigrée qui va être mobilisée dans la résistance parce que les FTP français ont été quasiment décimés.
Le 16 novembre 1943, Missak est capturé. Il y a 23 membres du groupe qui sont arrêtés par la police française. Méliné réussit à se cacher chez les parents de Charles Aznavour.
Absolument. Ils étaient très amis avec les Aznavourians, qui étaient justement communistes, et qui fréquentaient les mêmes cercles. Et ils vont la cacher, justement, et ils vont prendre des risques pour la cacher.
Lui est fusillé en 44 par les Allemands. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Dans cette lettre, il écrit à sa femme et il lui dit ceci: « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » À l'époque, il sait que l'histoire portera à un moment donné un regard sur ce qu'il a fait, sur ce qu'ils ont fait.
Oui, c'est assez visionnaire d'écrire ça et 80 ans après. Son exécution, la République lui rend hommage, c'est très beau.
Et effectivement, il est mort sans qu'on lui bande les yeux. Il n'était pas le seul à être exécuté. Il avait aussi écrit à sa femme des très belles choses. C'était une lettre d'amour qu'il a laissée aussi en lui disant « Refais ta vie, marie-toi, fais des enfants », ce qu'elle n'a pas fait.
Non, parce qu'elle part en Arménie soviétique et elle a pas. Enfin, et puis de toute façon, elle va se consacrer toute sa vie. Missak, c'était l'amour de sa vie, donc elle va consacrer ensuite le reste de sa vie à rappeler son sacrifice.
Vous voulez nous parler de la fiche rouge ?
Alors,
la fiche rouge, c'est un moment d'histoire. Oui. On va la voir dans un instant. La libération par l'armée du crime, c'était une propagande, en fait, qui ciblait cette résistance conduite par des étrangers.
Oui.
C'est ça, hein ?
Et donc Manouchian, c'est en effet une affiche de propagande. Et ça s'est retourné finalement contre les nazis et d'une certaine manière. C'est avec cette affiche, c'est à travers cette affiche odieuse qu'on se souvient aujourd'hui de leur combat.
Parce qu'il y a eu une chanson,
ironique.
On peut peut-être le raconter ça aussi.
Oui.
Ça a donné lieu à une chanson de Léo Ferré, un texte d'Aragon d'abord, et puis un poème d'Aragon, et puis une chanson Léo Ferré.
Absolument. En fait, Aragon, grâce à Méliné, découvre la lettre d'adieu que lui avait adressée Missak, et ça l'inspire. Il écrit un poème d'hommage aux 23 FTP Moy. Et ensuite, ce poème est chanté par Ferré. Et à partir de là, Missak rentre dans l'imaginaire collectif.
Vous me disiez avant de débuter cette interview, sans trahir de secret, que vous étiez étonné de voir qu'il y avait tout un tas de Français qui ne connaissaient pas avant qu'ils rentrent au Panthéon. On rappelle que ça se précise, ce sera demain, mercredi, pardon, au Panthéon, sous la présidence donc d'Emmanuel Macron, qui l'a souhaité, qu'il y avait tout un tas de Français qui ne connaissaient
absolument
pas le personnage.
Absolument, c'est étonnant. En fait, il y a une partie de la population qui a toujours entendu parler de l'affiche rouge et de Manouchian, Il y a même des femmes qui se prénomment Méliné en hommage à Méliné Manouchian. Et d'autres découvrent cette histoire à l'occasion de cet événement historique.
Une autre historienne que je cite pour terminer, qui s'appelle Annette Bieborka, que vous connaissez, qui regrette, elle, que seul le couple Manouchian rentre au Panthéon. Elle dit cette phrase dans le journal Le Monde: pourquoi faire entrer un couple au Panthéon alors que c'était un groupe qui était visé par les nazis? Et elle dit en fait que dans cette histoire, on a omis de préciser que ce sont des juifs aussi qui étaient ciblés.
Oui, c'est vrai, la plupart des résistants étaient juifs. Elle a raison, et c'est tout le groupe en réalité qui rentre, parce que le nom de tous ces résistants, celui d'Olga qui a été Banchik, qui a été guillotinée, ouais, en mai
2004,
qui a été guillotinée, ouais, tous ces noms seront inscrits, ainsi que celui de Joseph Epstein qui était leur chef à tous, seront inscrits en lettres d'or dans le Panthéon, parce que le Panthéon ne contient pas uniquement des restes humains, mais aussi des plaques qui honorent des personnes qui ont des grands hommes et des femmes.
Et c'est un groupe, et c'est le groupe Manouchian qui rentre au Panthéon, selon vous.
Absolument.
Merci beaucoup, Astrid.
On a besoin d'incarnation.
Pour vous, c'est un moment émouvant?
Oui, c'est un événement historique qui a une charge symbolique très forte.
Et c'est à relire ce parcours-là dans ce magnifique livre Manouchian. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, et merci pour votre travail. On retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air. Nous allons parler d'un grand résistant, un autre résistant, Alexei Navalny, et sa femme qui se dresse aujourd'hui contre Vladimir Poutine. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.